Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers amis auditeurs, méditons ensemble sur les versets 47, 48 et 49 de la Sainte Sourate Younes.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون تأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
À chaque communauté, un messager. Puis, quand vient leur messager, tout se décide entre eux à la balance. On ne leur manquera cependant pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je ne suis maître pour moi, ni de mal ni de bien, que celui que Dieu veut. À chaque communauté, un terme.
Quand leur terme arrive, ils ne peuvent alors ni retarder d'une heure, ni avancer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce jeudi soir 9 décembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. La coopération irano-turque entre dans une nouvelle phase selon le président iranien Ebrahim Raisi. Le président Raisi effectuerait une visite officielle à Moscou début 2022, annonce Vladimir Poutine, le président russe. La ville de Maarib au Yémen est sur le point d'être entièrement libérée, selon Al-Mayadin. Les États-Unis cherchent de nouveaux outils pour sauver leur politique unipolaire, selon Damas. L'OMC juge peu probable l'élimination du sida en Afrique d'ici 2030. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Évoquant l'importance des relations économiques et commerciales, Téhéran-Ankara, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président de la République islamique d'Iran, Saïd Ebrahim Raisi, a déclaré bientôt, avec la tenue d'un sommet conjoint à Téhéran, le développement de la coopération entre les deux pays entrera dans une nouvelle phase. Lors de cette conversation téléphonique, le président iranien, faisant référence à la nécessité d'une coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré « Le principal moyen de lutter contre le terrorisme est de respecter la souveraineté des pays et vu le brillant antécédent de la République islamique d'Iran dans la lutte contre le terrorisme, nous saluons la coopération de tous les pays dans ce domaine. » Le président iranien soulignant l'importance des relations de Téhéran-Ankara dans le domaine économique et commercial, a noté que bientôt, avec la tenue d'un sommet conjoint à Téhéran, le développement de la coopération Téhéran-Ankara entrera dans une nouvelle ère. Se référant à ses récentes réunions et consultations dans la région, le président Raisi a ajouté « Nous réitérons sur le fait que les problèmes de la région doivent être résolus dans les pays mêmes de la région, avec la participation active de ces derniers et qu'il n'y a point besoin d'intervention étrangère. » Toujours lors de cette conversation téléphonique, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pour sa part souligné l'importance de la coopération Téhéran-Ankara, dont notamment dans le domaine de l'économie et de la sécurité, a déclaré « L'idée d'une coopération conjointe a désormais prévalu entre les pays de la région et les récents déplacements et consultations montre son succès. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, tout en insistant sur la tenue de réunions et de coopération conjointe entre Téhéran et Ankara, a noté lors de sa prochaine visite à Téhéran, les relations entre les deux pays entreront dans un nouveau chapitre d'élargissement. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, c'était ce mercredi, une visite éventuelle de son homologue iranien Seyed Ebrahim Raisi à Moscou début de l'année prochaine. L'éventuelle visite du président iranien en Russie pourrait avoir lieu au début de l'année prochaine, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse ce mercredi soir vide décembre. S'exprimant à l'occasion de cette conférence de presse, à l'issue de ses entretiens avec le premier ministre grec, il a souligné « Nous avons parlé des problèmes de l'Iran. Je pense que mon invitation au président iranien a été acceptée et il se rendra en Russie ici pour le début de l'année prochaine. » Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibov, se trouve en Turquie pour assister à la réunion de deux jours de l'Union interparlementaire de l'Organisation de la coopération islamique, ayant pour les thèmes centraux Palestine, immigration, Afghanistan. Le porte-parole du président du Parlement iranien a annoncé le président du Parlement iranien s'est rendu en Turquie pour assister à la réunion de l'Union interparlementaire des organisations de la coopération islamique. En plus d'assister au sommet de cette organisation, le président du Parlement, Mohammad Bagher Qalibov, lors de son séjour en Turquie, aura des réunions bilatérales avec les présidents de certains pays islamiques présents au sommet, selon le porte-parole du président du Parlement iranien. La diplomatie parlementaire l'aide au développement des relations économiques des pays voisins en soutenant les actifs économiques. Le secteur privé font partie des questions suivies par le Parlement iranien. Une partie importante de cette visite parlementaire sera donc consacrée à rencontrer des hommes d'affaires iraniens et turcs en vue de faciliter les relations économiques et de soutenir les secteurs privés des deux pays, a-t-il déclaré. La ville de Marib pourra être libérée dans les prochains jours, ont assuré des sources sur le terrain pour la télévision libanaise d'information Al-Mayadin. Quelques jours séparent l'armée yéménite et les comités populaires d'Ansar Allah de la libération de la ville de Marib en entier, ont-elles déclaré, faisant état de la libération de la chaîne de montagnes Al-Babalak, située à l'est, aux confins avec la ville yéménite. Cette chaîne de montagnes, Al-Balar, est la dernière montagne de la défense de la ville du côté sud-est, ont précisé ses sources, lesquelles ont rendu compte d'effondrements majeurs et d'un mouvement d'évasion important dans les rangs des forces Hadis et de la coalition d'agression. En allusion aux unités de l'armée fidèles au président démissionnaire contesté Abed Rabo Mansour a dit, et à la coalition d'agression conduite par l'Arabie Saoudite dans sa guerre contre le Yémen, certains de leurs chefs n'ont plus été entendus, ont souligné ces sources, notant que le commandement militaire yéménite a donné la dernière chance à ceux qui ne se sont pas rendus de régler leur situation. Le membre du conseil politique du mouvement Ansar Allah, Mohamed Al-Bukhaiti, a affirmé pour Al-Mayadin que les heures prochaines sont décisives pour Marib, ajoutant que les forces de Sana'a sont soumises à des pressions populaires exigeant qu'elle libère Marib. La défaite des forces de l'agression à Marib signifie leur défaite sur le reste des fronts, a-t-il ajouté. Boussaïna Chaban, conseillère spéciale à la présidence de la Syrie, a affirmé que les États-Unis avaient commencé à chercher de nouveaux outils pour sauver leur politique unipolaire. Dans une allocution qu'elle a prononcée via vidéoconférence lors de sa participation à la troisième session du Forum des droits de l'homme Sud-Sud, qui se tient tous les deux ans à l'invitation de la République populaire de Chine, Chaban a indiqué que l'Occident cherche à des démocraties cloniques qui exécutent ces politiques. Il a ajouté que les États-Unis, après leur invasion de l'Irak en 2003, avaient commencé à rejeter toute politique qui ne correspond pas avec leur agenda et à imposer des mesures coercitives aux pays qui s'opposent à leur politique, soulignant que la Syrie était parmi ces pays qui n'avaient point accepté de lui imposer cet agenda. La conseillère spéciale à la présidence de la République de la Syrie a mis l'accent sur les efforts constructifs déployés par la Chine pour communiquer avec le peuple et les pays. L'armée congolaise et la force de l'ONU en RDC, MONUSCO, se sont dotés d'un cadre pour mener des opérations conjointes contre la centaine de groupes armés actifs dans l'est du pays depuis près de trois décennies. Le document intitulé « Directive des opérations conjointes » a été signé au siège de l'armée congolaise par le général d'armée de Célestin Mbala, chef d'état-major des forces armées de la RDC, le général Afonso da Costa, commandant en chef de la force de la MONUSCO. La directive des opérations conjointes est une occasion pour l'ensemble des contingents des casques bleus en RDC de s'engager pour l'application stricte de la force contre des groupes armés, a déclaré le général Mbala, les invitant à faire usage du chapitre 7 des Nations Unies qui autorise l'utilisation de la force afin d'assurer le maintien de la paix. Ce document vient combler un vide parce qu'il n'avait pas un mécanisme de coordination au niveau opérationnel, a déploré le général Da Costa, ajoutant que désormais, avec ce manuel de procédure, la force de l'ONU en RDC va passer de la lettre à l'action. Nous sommes en condition d'apporter l'appui feu terrestre avec notre artillerie, avec nos hélicoptères d'attaque en soutien aux opérations conjointes, a expliqué le général Da Costa. L'OMS juge peu probable l'élimination du sida en Afrique d'ici 2030. Il est peu probable que l'Afrique mette fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030 en raison d'actions tardives prises par plusieurs pays et de difficultés aggravées par la COVID-19, a averti l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le continent africain a réalisé des progrès considérables dans la lutte contre le sida au cours de la dernière décennie, réduisant de 43% le nombre de nouvelles infections et diminuant de près de moitié le nombre de décès liés au sida, a indiqué le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique dans un communiqué. Cependant, il est peu probable que le continent mette fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, car de nombreux pays ont pris du retard par rapport aux principaux objectifs intermédiaires d'élimination de la maladie et les difficultés liées à la COVID-19 ont aggravé la situation, peut-on dire dans le communiqué. Eh bien, chers amis, avec ces dernières nouvelles, notre journal information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Négociations sur la levée des sanctions à Vienne, les cinq conditions de l'Iran, ce dont nous vous parlons dans notre commentaire politique. La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadin cite des sources bien informées à Vienne, capitale de l'Autriche, selon lesquelles la délégation des négociateurs iraniens aurait formulé cinq conditions à ses interlocuteurs occidentaux dans le cadre des négociations portant sur la relance du plan global d'action conjoint de 2015 relatif au programme nucléaire civil de la République islamique d'Iran. Selon Al-Mayadin, la première de ces conditions et la levée des sanctions liées à l'accord nucléaire. La chaîne a expliqué que parmi les conditions figure également la vérification de la levée des sanctions et l'obtention de garanties, en plus de l'indemnisation de l'Iran pour les pertes et le retour de toutes les parties au respect de l'accord de Vienne. Le correspondant d'Al-Mayadin à Vienne cite des sources iraniennes évoquant les conditions de Téhéran dans les pourparlers de Vienne, alors que la nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, décrit les récents pourparlers de Vienne comme la dernière chance pour l'Iran de revenir au plan global d'action conjoint. Cela intervient alors que la République islamique d'Iran a annoncé à plusieurs reprises qu'elle est entrée en négociation avec ses interlocuteurs occidentaux avec sérieux et bonne volonté. Les sources iraniennes ont également indiqué que les déclarations de la ministre britannique des Affaires étrangères sont un message de menace que Téhéran rejette avec force. Ces sources ont ajouté que, de selon l'Iran, la conclusion d'un accord à Vienne n'est pas à exclure. Ces sources ont déclaré que l'Iran a présenté deux projets d'accord qui peuvent être révisés et modifiés si nécessaire. Ces sources indiquent que l'Iran attend pour le moment la réponse de la partie occidentale à ses propositions. De son côté, Washington a intensifié ses mesures contre Téhéran à la veille de la reprise des pourparlers de Vienne sur le dossier nucléaire iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la République islamique d'Iran avait entamé le nouveau retour des pourparlers à Vienne, capitale de l'Autriche, sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 avec une attitude constructive et flexible, alors que ce n'était pas le cas de la partie occidentale. Nos interlocuteurs européens doivent examiner minutieusement nos propositions sans se contenter de parler aux médias pour accuser faussement l'Iran d'être responsable de la lenteur des pourparlers. C'est faux. Il est vrai pourtant que nous ne sommes pas pressés, mais nous ne permettrons pas que nos interlocuteurs nous fassent perdre notre temps et notre énergie, a-t-il souligné. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a précisé que, du point de vue de la République islamique d'Iran, il n'y aura pas d'accord provisoire et pas d'engagement au-delà du plan global d'action conjoint de 2015. Saïd Khatibzadeh a déclaré que Téhéran négocie la suppression de toutes les sanctions américaines en même temps, rejetant la notion d'un accord provisoire ou d'un plan étape par étape. Il a également souligné que l'Iran ne s'engagera à aucune nouvelle obligation au-delà de l'accord de 2015. Khatibzadeh a réitéré l'importance pour l'Iran de la vérification de la phase de la levée des sanctions compte tenu de manquements successifs de la partie occidentale à ses promesses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder cette visite à Téhéran du ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad. À Téhéran, le chef de la diplomatie syrienne a rencontré le président iranien Ebrahim Raisi et au cours de cette rencontre, il lui a remis l'invitation de son homologue syrien Bachar Assad à se rendre en Syrie. Ce message reflète l'importance des relations bilatérales entre la Syrie et l'Iran, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. C'est de ce sujet qu'on va en fait parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux spécialistes d'analyse des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Toujours un plaisir. Bonjour aux téléspectateurs et bien sûr bonjour à votre invité.
Merci. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est un géopoliticien belge des questions internationales et spécialiste des questions internationales de Luc Michel. Monsieur Luc Michel. Monsieur Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à votre équipe et à vos téléspectateurs et bien entendu à Maître Develet, que j'ai toujours plaisir à rencontrer.
Luc Michel, comme première question, quelle est la portée, l'importance de cette visite effectuée par le ministre syrien des Affaires étrangères à Téhéran dans le contexte délicat actuel, s'il vous plaît?
Écoutez, elle est importante parce qu'elle prend place au moment où nous sommes dans une nouvelle ère géopolitique. Lorsque l'alliance entre Téhéran et Damas a commencé, au début des années 1980, c'était une alliance purement géopolitique. Beaucoup de choses opposaient les deux régimes et il y avait le problème de l'autre État bassiste qui était l'Irak qui aujourd'hui a disparu et il y avait le problème de l'Union soviétique qui avait de mauvaises relations avec la République islamique. Tout ceci a été balayé par l'histoire des dernières années. Il y a eu tout d'abord la disparition de l'URSS et de l'Irak. Il y a eu ensuite le printemps arabe lancé en Syrie et l'engagement total et absolu de la République islamique d'Iran pour protéger la Syrie bassiste de Bachar el-Assad. Depuis, les Russes sont venus combattre aux côtés des Iraniens et des Syriens, ça a arrangé beaucoup de choses. Il y a eu toute une campagne de désinformation menée par les médias occidentaux, israéliens, français, américains. On essayait d'opposer l'Iran à la Russie, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la Russie est allié à l'Iran dans des accords de partenariat à longue durée. Et donc, l'alliance est étroite, c'est un axe géopolitique entre Téhéran et Damas, d'autant plus que Damas a pris sa place dans l'architecture de la guerre hybride iranienne au Proche-Orient, la constitution de forces, j'appelle cela des partis milices, parce que c'est le cadre étatique. Il y a les comités de défense militaire, qui sont la version syrienne du Hezbollah. Donc c'est très important, ça intervient au moment surtout où les Israéliens et les Américains développent leur agressivité, en particulier où il y a une osmose de l'autre côté entre les Israéliens et les Américains. Depuis le mois dernier, l'Israélienne Tsahal, la mal nommée, elle a un bureau de liaison au sein de l'état-major américain du centre comme aux États-Unis. Et on est en train d'intégrer totalement les forces israéliennes aux forces de l'OTAN en Méditerranée et au Proche-Orient. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, une fois de plus, l'axe de la résistance montre que la résistance n'est pas un vain mot, que c'est une réalité complète. Et au moment où les Israéliens viennent d'engager une guerre des ports au Proche-Orient et viennent de faire de nouveaux bombardements, la volonté de Damas qui annonce des représailles sur Israël indique aussi que cette résistance n'est pas invraible.
Maître Arnaud Develet, en fait, permettez-moi tout d'abord de faire cette précision également. Lorsque Luc Michel était en train de faire son commentaire, vous avez découvert les images de la visite à Téhéran du ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad. Faisal Miqdad qui a rencontré également le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le secrétaire du Conseil de la Sécurité nationale d'Iran, l'amiral Ali Shamkhani. Maître Develet, venez d'entendre l'analyse de Luc Michel. Luc Michel estime que voilà, cette visite est d'une importance primordiale parce qu'elle s'effectue dans un contexte marqué par l'agressivité, pardon, côté américain et côté israélien.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'inscris complètement dans le prolongement d'analyse de Luc Michel. J'ajouterais que malgré les rumeurs qui vont ici et là, où là, il serait question que Damas rétablisse des liens, moyennant bien sûr toujours cette vieille marotte de prendre ses distances avec Téhéran, cette visite du ministre des Affaires étrangères syrien Migdal à Téhéran souligne de manière définitive qu'il n'en est absolument rien et que tout ça participe, et Luc Michel a bien raison de le souligner, d'une campagne de désinformation qui consiste à essayer de toujours semer un peu le trouble dans les opinions publiques quant à la viabilité et la solidité de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, et on l'a encore vu aujourd'hui avec l'annonce de sanctions supplémentaires par le département du Trésor américain sur des individus en Syrie, mais aussi des individus en Iran, alors même que normalement la bonne volonté devrait être de mise, eu égard aux négociations qui ont lieu à Vienne en ce moment même. On s'aperçoit qu'en fait, il y a d'un côté un discours qui semble être indicateur d'une volonté de s'asseoir et de discuter et de respecter les positions des uns et des autres. Et de l'autre côté, il y a les actes. Et les actes soulignent encore une fois que l'acte de la résistance effraie considérablement les Occidentaux, que ce n'est pas juste un slogan, c'est une réalité géopolitique, que Moscou a pris acte de cette réalité géopolitique régionale en intégrant, à l'époque, ça paraissait insensé, mais et je pense que ça a pris du temps, mais Moscou a fini par l'intégrer, la résistance libanaise, en permettant l'ouverture d'un bureau à Moscou, bureau permanent. Donc les choses sont claires, les lignes sont clairement tracées, et dans ce contexte-là, vous ajoutez à ça cette attaque israélienne sur le port de Latakia, où on s'aperçoit qu'en fait le port de conteneurs, enfin le centre de conteneurs visé a révélé qu'en fait il s'agissait de denrées fournies par l'Iran à la Syrie afin de permettre à la population syrienne de subvenir à ses besoins alimentaires les plus élémentaires. Et là, on est vraiment en présence en fait de la véritable alliance qui existe, qui n'est pas encore une fois une marotte. En contraste avec un camp sioniste qui, lui, est complètement aux abois, qui réalise que la partie est définitivement perdue et qui s'échine à essayer d'enflammer les tensions de tous les moyens possibles et inimaginables. Et dans ce contexte-là, la visite de Megdad a permis justement d'illustrer l'importance de renforcer non seulement les liens économiques entre Téhéran et Damas, mais aussi de poursuivre dans ce partenariat sécuritaire qui doit permettre de sauvegarder et de sécuriser ce qui sera amené à être un espace économique qui s'incorporera parfaitement dans le projet eurasiatique des routes de la soie.
Luc Michel, je viens de le dire en fait tout à l'heure en début de notre émission à Téhéran. Faisal Miqdad a dit que voilà le message du président Assad à son homologue des Iraniens en fait montre l'importance des relations entre Téhéran et Damas. Et Arnaud Develay estime que voilà cette visite du chef de la diplomatie syrienne à Téhéran illustre en fait l'importance de renforcer les liens économiques et commerciaux. Et également, désormais, il s'agit, selon Maître Develay, d'aller vers un partenariat en matière de sécurité, en matière de coopération, peut-être militaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais ce partenariat, il existe déjà de fait. Il faut constater, c'est que la Syrie sait qu'elle n'a survécu que grâce à Téhéran. Vous savez, moi, j'ai été en Syrie en 2013-2014, avec des missions, les premières missions européennes, et nous avons vu un pays dévasté. On se battait à quelques centaines de mètres de notre hôtel au cœur de Damas. Ce sont les Iraniens qui ont empêché cela, et en particulier les troupes du Hezbollah, qui ont mené le combat vital pour la sécurisation de la route Beyrouth-Damas et de la frontière. On sait donc à Damas qu'on ne renoncera pas à cette alliance qui a permis justement que l'État bassiste syrien ne s'effondre pas. Maintenant, il y a une nouvelle donnée, évidemment, elle est économique, c'est la guerre des ports. La guerre des ports, elle a été tentée par les ports israéliens contre le port de Latakia en Syrie et contre le port de Beyrouth au Liban. La campagne des Occidentaux, en particulier des Français et des Américains pour déstabiliser l'Iran après la destruction du port de Beyrouth, intervient dans cela pour remplacer le port de Beyrouth par le port de Jaffa et le port d'Haïfa. C'est un échec pour le moment, et l'échec des Occidentaux, évidemment, pour le moment au Liban, arrive dans le même domaine. La Russie s'est jointe à la Syrie et à l'Iran, et c'est, je pense, une des raisons de cette frappe clandestine des Israélo-Américains, puisqu'ils sont alliés aujourd'hui dans une même organisation militaire. Je pense que c'était une façon d'intimider la Russie. Vous savez que Latakia, c'est la base militaire principale de la Syrie et c'est une réalité de la géopolitique russe depuis le XVIIe siècle. Lorsque Catherine la Grande s'est emparée de la Crimée, elle a développé une politique russe en Méditerranée orientale qui repose sur un axe qu'on appelait à l'époque l'axe Sébastopol-Levant. Le Levant aujourd'hui, c'est la Syrie et l'Iran, c'est justement Latakia. Je crois donc que cette frappe sur Latakia n'est pas du tout innocente. Il y a actuellement plein de signaux comme ça qui sont lancés en Afrique, etc., en Europe centrale à la Russie. On cherche à intimider la Russie. Je pense qu'on arrivera au résultat contraire.
Et s'agissant de l'Afrique, on va revenir en fait, Luc Michel, sur cette importante quand même réunion qui a eu lieu à Alger et qui a regroupé en fait des groupes palestiniens. Ça montre que voilà, l'Algérie aussi pourrait désormais en fait se joindre à ce que vous appelez, à ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Arnon Develi, en fait, Luc Michel dit que voilà, cette attaque contre eux, l'attaquer n'était pas une attaque innocente. L'objectif en était d'intimider la Russie. Vous dites que voilà, on va aller vers une véritable alliance du côté Téhéran et Damas. Et cette alliance pourra de plus en plus être renforcée, Arnaud de Voler, par la présence, si vous voulez, des Russes également, n'est-ce pas? Parce que, en fait, cette attaque contre l'attaquer, en quelque sorte, c'est une attaque contre la Russie également.
Oui, tout à fait. J'ajouterais que une délégation importante d'investisseurs iraniens était à Damas il y a de cela quelques jours. Et donc, la coopération et le compact économique entre les deux pays est complètement et plus que jamais d'actualité. Il s'agit de faire fi de toutes les rumeurs, encore une fois, qu'on peut entendre ici et là, qui ne sont le tas que de campagnes de désinformation, et de forger un avenir commun de manière décisive, qui ne prenne pas en compte toutes ces espèces d'enfantillages qu'on peut entendre ici et là. Pour ce qui concerne la Russie, bien sûr, et Michel l'a très bien souligné, mis à part la parenthèse soviétique, la Russie a traditionnellement toujours privilégié un axe nord-sud qui passerait bien sûr par Téhéran et Latakia. Donc dans ce contexte-là, nous sommes de retour à cette posture géopolitique traditionnelle. Et je dois avouer effectivement que les gens à Tel Aviv qui prétendent intimider la Russie sont les mêmes qui en ce moment prétendent dicter à la Russie ce qu'elle doit faire à l'intérieur de ses propres frontières dans le contexte ukrainien. Donc tout est fait pour essayer de déclencher une crise où on pourrait, au niveau narratif, mettre la responsabilité sur la Russie. On déforme les accords qui ont pu être signés quant à la façon dont ces accords devraient être mis en œuvre. Et on assiste même à des choses complètement incohérentes, comme la proposition d'Erdogan de servir d'intermédiaire entre les Russes et les Ukrainiens. Quand, encore une fois, dans le cadre de l'Ukraine, il s'agit, si on respecte les accords de Minsk, de laisser les Ukrainiens négocier entre eux et arriver à une forme de vivre ensemble, si je puis dire, pour permettre éventuellement aux républiques du Donbass de vivre sous un régime d'autonomie. Donc il n'est pas question en cela de réinventer la roue. Tout est fait au niveau de la campagne de désinformation médiatique en Occident pour diaboliser la Russie, effectivement, vous l'avez dit, de laisser entendre que la Russie s'apprêterait sans raison apparente à envahir l'Ukraine. Mais ce qu'on omet de dire, c'est que l'OTAN presse de toutes ses forces pour essayer de laisser entendre que l'Ukraine et la Géorgie pourraient rejoindre l'alliance nord-atlantique, alors que Vladimir Poutine s'efforce de dire que nous aussi, nous avons nos sources de préoccupations sécuritaires, et l'expansion de l'OTAN à nos frontières est une ligne rouge que nous ne vous conseillons pas de franchir. Donc les tensions sont à leur paroxysme, mais je pense que tout ça participe d'un jeu de bluff gigantesque, dangereux certes, mais dont je pense que le Kremlin a parfaitement compris les tenants et aboutissants, même si ça a des répercussions sur la façon dont les diplomates peuvent ensuite concevoir d'un forum de discussion pour la résolution des problèmes.
Luc Michel, en fait, cette coopération Téhéran-Damas, cette alliance entre Téhéran-Damas et Moscou, en quelque sorte, et Pékin également, parce qu'en fait, tous ces pays sont sur les mêmes longueurs d'onde par rapport à beaucoup de sujets, en fait, beaucoup de dossiers régionaux et internationaux. Ce modèle, en fait, prend de l'ampleur, prend de l'importance, Luc Michel, parce que, en fait, quand même, cette récente réunion à Alger, où, en fait, des groupes palestiniens, à laquelle des groupes palestiniens, en fait, ont participé, montre que, voilà, ce modèle de cette coopération devient désormais un modèle à suivre, Luc Michel, n'est-ce pas?
Oui, c'est l'Afrique qui fait le lien entre l'axe de la résistance et le combat du bloc de l'Est en Afrique. Il y a actuellement une confrontation entre le néocolonialisme occidental, américain et français principalement, mais les Allemands sont là aussi, et le bloc de l'Est, principalement la Russie et l'Iran dans le domaine sécuritaire et militaire, qui mènent avec succès ce qu'on appelle la guerre hybride en Afrique, la guerre hybride qui a été inventée par l'Iran au Liban et par les Russes en Syrie. Et bien entendu, les Chinois, eux, s'occupent des aspects économiques et financiers. Il y a le point central de cette confrontation, c'est le Mali, au cœur de l'Afrique centrale, qui essaye, après la Centrafrique, de se désenclaver de l'emprise française. Il y a un axe géopolitique qui vient de se créer, qui est l'axe Alger-Moscou-Bamako, et qui met en échec les Occidentaux. Au sein de cet axe, il y a une influence iranienne, évidemment, puisque l'Iran est un État étroit allié de l'Alger. Il est membre de l'Organisation des États producteurs de gaz, qu'on appelle l'OPEP du gaz, qui reprend la Russie, qui reprend le Venezuela, mais qui reprend surtout en Afrique l'Algérie et la Guinée équatoriale du président, celui qu'on appelle le sage du néo-Panafrique. C'est donc que l'Iran a du Sénégal. Le Sénégal joint cette OPEP du gaz à leur modèle du précaré français. Tout cela se passe dans un contexte de tension, parce qu'à l'intérieur même du bloc américain occidental, il y a une guerre économique entre ses membres. Les Américains veulent éjecter de la France de l'Afrique centrale et la redéployer en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique. Et les Français, évidemment, ne veulent pas partir, puisqu'ils ont des positions économiques essentielles, notamment piller l'uranium du Niger et l'uranium du Mali. Voilà donc ce qui se passe. C'est maintenant une alliance puissante qui unit le Proche-Orient et l'Afrique. Et le bloc de l'Est, de plus en plus, ce n'est plus une alliance uniquement géopolitique, c'est en train de se transformer en alliance militaire.
Et très rapidement, Arne de Volet, s'agit-il désormais d'une alliance qui unit en fait le Moyen-Orient et l'Afrique?
Oui, je dirais que c'est effectivement le cas, dans la mesure où la politique du printemps arabe est maintenant, si je peux dire, copier-coller dans le Maghreb. Dans le cadre de ces accords d'Abraham, on a vu maintenant le Maroc raffermir son partenariat sécuritaire et militaire moyennant une reconnaissance des États-Unis avec l'État sioniste, que cela, bien sûr, a pour visée une déstabilisation de l'Algérie, probablement en utilisant la carte Kabyle, hein, et que le mois prochain, enfin ce mois-ci, le 24 décembre, sauf erreur, nous aurons un scrutin en Libye et il sera intéressant de savoir qui sortira du chapeau, si je puis dire, parce que ce sera déterminant pour la stabilité de cette région et partant de là, effectivement, un combat qui c'est en train de s'intensifier entre la résistance et ses alliés et un empire néo-impérialiste en perte de vitesse.
Merci infiniment, Arnaud Develet, juriste français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous de toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Une attaque perpétrée dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 décembre, près de la frontière avec le Burkina Faso, illustre la perméabilité du nord-ouest du Bénin face aux terroristes takfiristes. Tout le monde est sur le qui-vive. Avant, il y avait de l'inquiétude. Maintenant, c'est la peur. Ce témoignage, recueilli au téléphone auprès d'un villageois de Bourga, traduit l'état d'esprit de la population du nord-ouest du Bénin après l'attaque qui a coûté la vie à deux militaires dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 décembre. Inquiétude, car les habitants de cette localité du département rural de l'Atakora savaient que les groupes armés faisaient régner l'insécurité de l'autre côté de la frontière avec le Burkina Faso. Peur, car la violence a franchi un cran. Pendant le week-end, des autorités locales étaient à Bourga pour rencontrer les habitants, évaluer la sécurisation des habitations proches de la base militaire prise pour cible et voir comment les paysans vont pouvoir récolter le coton, le maïs et le riz à l'avant de cette position. Un campement de pêcheurs au bord de la rivière qui sépare le Bénin du Burkina Faso a été évacué. Ces derniers mois, les habitants ont vu la menace se rapprocher. Bourga se trouve dans un territoire qui fait l'objet d'un litige frontalier entre les deux pays et il est une zone neutre sans signe de souveraineté. Ce bout de terre, lieu de tous les trafics, est désormais occupé par les terroristes takfiristes. Ils ont été repérés à partir de 2019, décrit une source locale. Cette année, ils se sont vraiment implantés. En novembre, ils ont organisé des réunions avec la population pour semer la peur. Selon plusieurs témoignages, les villageois auraient été forcés d'assister à des séances de présentation de nouvelles règles de vie. Parmi elles, l'interdiction d'élever des porcs, de consommer de l'alcool et l'obligation du voile pour les femmes. Ils recrutent aussi auprès des trafiquants locaux, notamment ceux impliqués dans les produits pétroliers arrivant frauduleusement au Nigeria. À Bourga, les assaillants ont frappé de nuit, un des leurs a été tué. Deux autres corps auraient été retrouvés dans les champs abandonné lors du repli. La veille, un groupe armé avait tenté de contourner un poste de surveillance plus à l'est, toujours près de la frontière. Là aussi, les militaires ont abattu un agresseur. Ce sont les premières attaques contre l'armée béninoise. Nos soldats ont vraiment été à la hauteur, indique un interlocuteur qui ajoute que la consigne est soit on neutralise l'ennemi, soit on le repousse. Cette présence est rassurante. Dans la zone de Porga, le dispositif sécuritaire a été renforcé récemment. Les militaires se sont déployés tout au long de la frontière depuis l'enlèvement de deux Français et l'assassinat de leur guide béninois en mai 2019 dans le parc de la rivière. Ces unités sont notamment formées par la France et les États-Unis et équipées par ces derniers. Les terroristes sont en train de tester pour voir s'ils peuvent passer, analyse un observateur. L'ennemi serait déjà à l'intérieur du pays. En octobre, une cellule de terroristes takfiristes a été démantelée dans la région. On sait que des jeunes désœuvrés ont fait allégeance aux takfiristes qui ont le pactole pour acheter les gens, se désole un habitant. Le nord-ouest du Bénin, limitrophe du Burkina Faso, du Niger et du Togo, est particulièrement vulnérable. Pour un acteur local, il faut maintenant une pression militaire commune de tous ces pays. Au centre du Mali, une attaque takfiriste fait au moins 30 morts. Une nouvelle attaque meurtrière dans la région de Mopti, au centre du Mali. Au moins 30 personnes ont été tuées vendredi 3 décembre dans une attaque par des terroristes takfiristes d'un véhicule de transport près de la ville de Bandiagara, a annoncé le gouvernement. Dans un communiqué diffusé par la télévision publique, le gouvernement malien assure que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique. Auparavant, des responsables locaux avaient annoncé à l'AFP qu'au moins 30 personnes ont été tuées dans cette attaque. Au moins 30 civils maliens ont été tués par des terroristes près de Bandiagara vendredi. Les civils étaient dans un véhicule de transport. Les passagers ont été mitraillés et le véhicule a été brûlé. L'État a envoyé des forces de sécurité sur place, ont déclaré à l'AFP des autorités locales qui ont requis l'anonymat. Un élu de la localité de Bandiagara a confirmé ce bilan et précisé que parmi les victimes, il y a des enfants et des femmes et des disparus. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 3 jours à compter de dimanche dernier. À cette occasion, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics. L'attaque n'a été revendiquée par aucun des nombreux groupes armés qui sévissent dans le pays. L'Association pour le développement de Bandiagara condamne une attaque lâche et criminelle et demande aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les populations et leurs biens. Le Mali est livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Daesh, ainsi qu'aux violences de toutes sortes, perpétrées par des milices autoproclamées, d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions. Les violences parties du Nord en 2012 se sont propagées au centre, au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires et des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. La prise du pouvoir à Bamako par des militaires à la faveur d'un putsch en 2020 n'a pas enrayé la spirale des violences dans le pays.